De Pop en Stock cette semaine à deux jours, parce qu'on enregistre un mardi, donc c'est sûr que c'est un petit peu étrange dans notre calendrier, mais à deux jours de la fin des festivités de Pride Montréal qui se sont terminées dimanche le 19 août 2018 avec le fameux défilé de la fierté. On a décidé en studio de faire un petite émission Pop Pride ou Pop LGBTQ IA2+, ou je ne sais pas c'est quoi l'acronyme qui est le plus utilisé en général, mais en fait, en studio, j'ai avec moi Sandrine Galland. Allô?
Allô.
Ça va bien?
Oh, ça va bien, toi.
Oui. Maud.
La fleur.
J'ai juste ton nom Facebook dans la tête.
C'est ça, non, les digits, ça marche pas. Les digits. C'est pas sur mon baptistère.
Pas encore. Est-ce que tu prévois l'ajouter éventuellement ou...
Je pense pas. C'est quand même 400 $ changer un nom au Québec.
Ça vaut pas la peine.
Ça vaut pas la peine.
Pour un Lady Jet.
C'est ça.
Maud Lady Jet Lafleur.
Hello.
Ça va bien.
Ça va bien, toi.
Et oui, oui. Et Elisabeth des Amazones.
Oui, bonjour.
Ça va bien.
Ça va bien toi-même. J'ai un peu froid, j'allais mettre une petite laine.
Une petite laine. Parce que l'air climatisé dans l'UQAM, c'est rough sur les eaux. Oui, c'est ça. Donc, on voulait parler de Pride, parler de je sais plus, j'ai perdu mon fil.
Bon, on voulait... Donc, tu disais qu'on faisait Pop Pride suite à la Pride. Donc,
C'est quoi l'acronyme que vous utilisez le plus souvent? LGBTQ, LGBT?
Moi, j'utilise LGBTQ.
Ouais.
Ou LGBTQ+.
Q+, ouais, c'est ça. Parce que LGBT, ça, c'est pour ceux et celles à la maison qui ne connaissent pas, c'est pour lesbienne, gay, bi, trans, queer et plus. Donc, on avait rajouté le I pour intersexe. Ah, il y en a plusieurs qui disent alliés, mais je pense que c'est plus pour asexuels et aromantiques.
Ouais. Tout à fait, je pense.
Les alliés n'ont pas besoin.
Les alliés n'ont pas besoin d'être dans l'acronyme.
Bravo, t'es dans l'acronyme pour être un humain comme de base, décent, tu sais.
Voilà un biscuit. Et il y avait aussi non-binaire et plus et plus.
Ouais, voilà. Moi, personnellement, j'aimais bien utiliser LGBTQ, mais je m'identifie plus comme bisexuelle. Donc, j'aime mieux utiliser queer, je pense, en général, parce que ça devient moins... Ben, pas que ça devient moins compliqué, pas parce que c'est mal que ça soit compliqué, mais parce que là, je suis comme, j'utilise un acronyme où je me représente même plus dedans. Là, donc, tu sais, je pense que j'ai une autre étiquette. Fait que j'aimerais mieux utiliser un terme qui peut imbriquer l'étiquette.
C'est ça, le terme queer aussi, c'est, par son ambiguïté, inclut toutes ces...
Oui, c'est un terme ombrelle.
Exactement. Puis il y a un terme qu'on s'est réapproprié aussi à partir d'insultes. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très révolutionnaire, j'ai l'impression, dans l'utilisation du mot queer de façon améliorative, alors que c'était péjoratif avant. Là.
Je l'ai étudié dans un colloque, puis un tenant de castoriadis m'a dit à quel point c'était violent pour lui d'entendre ce mot-là, puis que je devrais pas l'utiliser. J'ai dit, mais là, on a l'exemple le plus réussi de la réappropriation d'un mot, tu sais, c'est justement ça qui est beau avec le mot, mais lui, ça l'avait choqué, là.
Mais j'ai la même relation avec le mot butch, en fait.
Ouais.
Ça me faisait vraiment violence quand je l'entendais, quand j'étais adolescente, puis... Moi, je pense que j'aimerais pas ça comme l'approprier pour parler de moi-même, mais j'ai des amis qui apprécient l'utiliser pour eux-mêmes, puis je suis comme, ben tant mieux, tu sais, comme c'est votre affaire.
Mm-hmm.
Moi, personnellement, ça me fait trop écho à des mauvais souvenirs, fait que ben c'est ça. C'est...
Ouais, un peu comme le terme femme aussi, là,
exactement.
Utilisé pour décrire comme des gens avec des attributs plus féminins. Mm-hmm. C'est comme.
Mais femme, c'est pas nécessairement négatif pour les femmes, c'est vraiment plus négatif pour. Les hommes gays.
Mais il y a beaucoup d'hommes cis gays qui veulent se réapproprier ou d'hommes trans aussi. Là, qui ont que, t'sais, il y a tout ce spectre-là du genre qui peut être mais on distingue avec des étiquettes. Là. Donc, mm-hmm. on se prend des mots, on réutilise des mots, on se réapproprie des mots.
Mais ce qui est le fun, moi aussi, j'utilise plus pour moi-même queer, mais j'ai eu une discussion avec une amie qui est médecin, puis elle me dit « Ah, ben moi, je trouve ça compliqué quand même quand mes clients viennent, mes patients, pardon. » C'est donc... puis je trouve que ce qui est le fun avec l'acronyme LGBTQIA2, c'est que ce soit forcé dans l'espace public, c'est que ça sorte, que les gens soient forcés de trouver ça compliqué, puis de les nommer, puis de nommer les choses, puis à ce moment-là, c'est là que j'aime ça. J'aime ça que les gens les décortiquent, se rappellent ce que ça veut dire, parce que tous ces termes-là dont on vient de parler vont porer dans un mainstream dont on a besoin, ou en tout cas j'espère.
Ben si on se rappelle juste du coming out de queer de cœur de pirate, ben, c'est le mot a fait
queer, c'est vrai.
a fait stepper tout le monde là, comme c'est quoi ça, puis ça veut dire quoi, puis là c'est dans bien compliqué, ils peuvent s'arrêter d'inventer des mots, etc. etc. Mais c'est ça, de forcer ces mots là dans l'espace public, au lieu de justement changer gay. Tant qu'on n'utilise pas comme communauté gay, tu sais, je pense qu'on fait déjà.
Ouais, puis moi, je vais dire, c'est correct que tu trouves ça compliqué.
Oui.
Ta difficulté n'est rien par rapport à toute l'autre. Ouais. Je veux dire.
Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de biphobie aussi entourant ce coming out-là. Ouais. Des amis, collègues de la communauté, mais qui étaient plus, mettons, homosexuels, hommes blancs cis, là. Puis qui étaient comme, c'est juste une excuse pour faire parler de toi. Ouais, c'est comme, vrai. Ben, c'est souvent l'espèce de. En tout cas, personnellement, là, je trouve, là, comme lorsqu'on. C'est une difficulté de la communauté, des personnes qui ont. Comment que mon ami appelait ça? Le droit de passage hétéro, là, comme tu sais, quand tu fréquentes des personnes de tout genre, puis que.
Le hétéro passing. Ouais, c'est ça. Un peu comme le white passing pour les personnes racisées.
Exactement, tu sais, une espèce d'hétéro passing, puis c'était comme un genre de. Ben, vu que tu pourrais avoir la chance de fréquenter des personnes, tu sais, comme puis d'être hétéronormé dans tes relations, bon, ben, dans ce cas-là, t'es comme. T'es pas aussi. Violenté dans ta représentativité. Puis j'étais comme, c'est vraiment, vraiment violent de me faire dire ça. Mais bon, fait que bref, on est avec toi à cœur de pirate.
Mais surtout, si on se rappelle du contexte, c'était tout de suite après la tuerie à Orlando, puis c'était justement pour dire, j'ai besoin de me nommer queer pour pouvoir partager pourquoi ça m'a autant affectée. Mm-hmm. C'était tellement... Puis ça a été fait dans un journal anglophone, pas lu par les Québécois qui ont chialé, on s'entendra, là.
À l'époque où c'était exporté en France, en plus, puis qu'elle nous avait abandonnés.
Donc, tu sais, c'est ça. L'argument de « c'est juste pour faire parler d'elle ». Moi aussi, j'ai eu des blagues là, comme ça, des blagues de queer, puis cet été-là, puis j'étais comme... C'est vraiment pas le moment. Là,
non, vraiment pas.
C'est vraiment pas la bonne année pour ce genre de blague-là. Là.
Mais il y a quelque chose aussi, comme quand il y a des événements justement qui touchent la communauté LGBTQ, qui, quand ça arrive dans l'espace public, ça provoque la discussion. Oui, celle des étiquettes, mais il y a toutes les discussions, mais il y a vraiment une symbolique qui est associée avec la communauté LGBTQ. Puis on le voit beaucoup dans comment la fierté, donc la festivité pour la fierté ou le. La Pride a changé avec les années. Là. C'est sûr qu'au début, c'était un mouvement très politique. C'était pour montrer qu'on existe. Et là, c'est devenu un peu plus party. Là. Comme on dirait que c'est vraiment plus une festivité au sens de fête.
Surtout à Montréal, je pense. Puis aussi, je pense, Toronto, là, qui a une Pride très importante. Mais je sais plus c'est dans quel pays, mais il y a une Pride qui a été annulée, je crois, interdite.
Il y en a beaucoup quand même, ça arrive.
Mais cette année, en tout cas, il y en a eu encore. Donc, tu sais, c'est sûr qu'à ces endroits-là, c'est encore excessivement politique. Puis c'est encore, justement, tu sais, on veut pas, tu sais, on veut être fier, on veut juste dire qu'on est capable, qu'on a le droit d'exister. Je pense que ça, c'est super significatif. Puis Pride est souvent nommé aussi comme un, comment je pourrais dire, une espèce de rappel aussi de cette période-là où est-ce que là, ben maintenant, on fait le party puis on prend beaucoup d'alcool puis on se promène dans les rues puis on crie puis on c'est la joie, c'est la
célébration.
C'est la célébration, mais on célèbre peut-être beaucoup d'acquis, mais qui pourraient peut-être aussi nous être enlevés rapidement des fois. Là.
Tout à fait.
Parce que dans l'espace public, on s'interroge souvent, et surtout au Québec, de est-ce que c'est encore quelque chose d'important de faire justement des défilés comme ça ou de fêter. C'est sûr que t'as toujours les gens...
On devrait faire une fierté hétéro.
Ouais, c'est ça.
C'est tellement un débat qui me blase. Non, mais je... Je sais même pas par où le prendre.
Mais non, c'est ça, mais
je veux dire, on aurait tout le festival des gros casques à Nicolette. Tu sais, je veux dire, je sais pas, à un moment donné.
Mais c'était les gros casques, c'était les petits casques aussi.
Mais c'est ça.
les podcasts.
C'est quoi un gros casque,
d'ailleurs? All casque matters. Mais oui, c'est ça. Ben, comme le débat est là, mais en même temps, comme Elisabeth, tu le dis, c'est sûr que cette fête-là peut être enlevée à tout moment. Et comme, mm-hmm. c'est pour ça qu'elle doit être répétée à chaque année aussi.
Uh-huh. Puis c'est que c'est aussi quelque chose qui peut être repensé, parce que je pense à un documentaire que j'avais vu l'année passée qui s'appelle « Two Hard Things, Two Soft Things ». Sur la première fierté à, je pense c'est Iqaluit, mais c'est peut-être Kujuat, je sais pas trop, mais donc en population Inuit. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce que une des intervenantes interviewées disait « Il va falloir qu'on repense le concept de Pride ici parce que pour nous, ça n'existe pas, le concept d'être fier. La fierté même, c'est quelque chose qui n'existe pas. On n'a même pas le mot pour le dire. » Puis là, j'ai fait « Ah, OK, on a créé la fierté dans un contexte, à moins que je me trompe, occidental, nord-américain. » Ou pas?
J'ai l'impression que ça déroule de Stonewall.
Moi aussi? Parce que quelqu'un...
Mais...
en tout cas,
dans mon imaginaire, ça déroule de Stonewall.
Pour le moment, c'est une forme occidentale, nord-américaine. Puis je me dis, ben, ce qui serait intéressant pour la manière dont on peut se répandre, c'est peut-être justement de se muter, bon, de rester qu'elle est ici, mais que chacun puisse repenser sa fierté, en mm-hmm. tout cas.
De ne pas avoir comme une espèce de carcan, de c'est ça la vérité.
Exportable.
Exportable, puis.
Mais c'est ce
ça,
qui
ça fait très capitaliste.
Mais justement.
Des parapluies multicolores.
Oui, c'est devenu un événement qui est très capitaliste. Je veux dire, moi, je suis allée au défilé dimanche, puis c'est 80% de corporations, puis 20% d'organismes communautaires, tu sais, à peu près. Donc, c'est vraiment.
Oui, puis qui a les gros chars? C'est littéralement, oui, l'expression est bonne, là, parce que. C'est des banques qui ont
les
grosses...
C'est Outre-Jean ou ouais. Provigo, tu sais. Bon. Bref, mais
c'est
peu importe.
C'est des commanditaires.
C'est ça, voilà. Puis il y avait même des compagnies qui étaient là juste pour faire de la publicité. Tu sais, il y avait juste comme... prends tel bar granola parce que ça, c'est bon pour toi. Puis il n'y avait aucune référence à la fierté. Tu sais, ils donnaient des bars granola. Tu dis, mais c'est vraiment juste un coup de pub, tu sais. Mm-hmm. Genre, merci pour la bar granola gratuite, mais je ne sais pas trop ce que tu fais ici.
Mais c'est la même chose que pour les publicités sur Facebook. Là, pendant comme toute la semaine au complet, j'ai eu des telle compagnie qui... Exactement le même logo, mais là, il y avait un petit arc-en-ciel, fait que ça devenait soudainement Pride. Puis là, c'est juste comme, on utilise comme cet événement-là, puis cette réalité politique là pour faire un coup de pub, mais c'est un peu rendu le même avec là, j'ai l'impression de sauter du coq à l'âne, mais avec le queerbaiting, mm-hmm. les films, puis on utilise ce discours là pour mm-hmm. vendre plus pour...
C'est ça, c'est un argument économique là, de comment attirer une nouvelle base de clientèle, puis
on s'est rendu compte que les personnes queer ont de l'argent.
Surtout les hommes gays blancs cis.
Ben oui. Mais effectivement, mais tu sais, moi, je travaille autour du village depuis 2 ans, puis tu sais, comme tu les vois quand même certains commerces là, qui affichent leur fierté à longueur d'année. Puis là, tout d'un coup, je trouve ça moins agressant que quand je vois des compagnies, justement, je pense à Fido, par exemple, qui avait des affiches autour du quartier gay cette semaine qui disaient on est très fiers, c'est juste comme Fido, on est fiers, un drapeau. Puis c'est comme. OK, j'ai aucunement conscience de ce que tu as fait durant l'année ou ce que tu as fait concrètement pour promouvoir les droits ou justement avoir des fonds mis pour... je nommerai pas d'autres compagnies, là, parce que je suis pas là pour ça. Là, pis, mais tu sais, comme il y a des compagnies... clairement,
pas payé par Fido.
Non, je ne suis pas payé par Fido, certainement pas, puis pas par les autres compagnies non plus. Mais tu sais, il y en a qui, à longueur d'année, vont faire des actions concrètes en disant, bon, ben nous, notre choix de philanthropie, ça va être dans la communauté queer. Fait que là, tu sais, c'est comme, c'est une autre game, puis je trouve ça moins agressant de les voir s'afficher durant une semaine.
Non, mais bon. Ça, c'est parce que c'est conséquent.
Oui, c'est ça.
Ils mm-hmm. font ça à longueur d'année. Tandis mm-hmm. que quand on jump sur le bandwagon pour faire du cash...
Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est les banques aussi qui ont une très, très grande présence pendant la fierté, là. C'est vraiment du capital.
Puis, mais si je peux me permettre aussi, tu sais, je travaillais en refuge, mais je travaille encore avec les personnes en situation d'itinérance. Puis, il y a une surreprésentation de la communauté non-binaire et transgenre. C'est vraiment des gens qui sont, pas tous là, et toutes, mais il y a énormément de personnes qui sont dans la rue. Comme je pense qu'il y a vraiment une surreprésentation. C'est des gens qui se ramassent avec très judiciarisé, avec des problèmes de toxicomanie, avec comme une situation aussi donc d'extrême pauvreté, de la difficulté à se trouver de l'emploi. C'est vraiment une situation compliquée que vivent les personnes trans. Puis ben, je suis cis, by the way, là, je veux pas non plus m'approprier un débat, là, mais c'est que je trouve que justement, de parler, mettons, d'opulence puis de capitaliste à la fierté, c'est comme, mais il y a encore aujourd'hui des membres de la communauté qui vivent dans l'extrême, mm-hmm. mais dans l'extrême pauvreté, mm-hmm. puis qui n'ont pas accès à tous les soins de santé puis à tout le minimum de dignité humaine qu'ils auraient besoin, tu sais. Fait qu'en tout cas, mm-hmm. mais bon.
C'est comme le flafla de la parade et tout. Ça cache toute cette réalité-là mm-hmm. aussi. Là. Puis on en parlait aussi avant d'arriver en onde, parce que moi, j'ai été au show de Drag Race, de mm-hmm. Drag Queen, qui avait eu lieu jeudi dernier. Puis c'est ça, il y avait l'animatrice de la soirée, la Drag Queen, Bianca Del Rio, qui est comme fait des jokes comme incroyablement offensives. Puis en fait, c'est très trash, mais comme... Oui, un humour trash, mais en même temps, je trouve que c'était complètement déplacé. Puis c'est ce que tu me disais, Maud, que c'est ça aussi la réalité de la communauté, c'est que c'est pas tout rose. Ou,
mm-hmm. Non, mais justement, puis le pinkwashing, ça a beaucoup d'effets, là, tu sais, de dépolitiser tout, justement, puis de mettre cette idée-là de l'opulence, puis de la fête devant, mais c'est pas juste ça non plus. Puis c'est une fierté qui... Je pense que la fierté à Montréal, depuis les dernières années, essaye de se repolitiser, d'être mm-hmm. plus inclusive, de repenser justement à comment faire une place à plus d'identités, d'antigenrées ou d'orientation sexuelle ou tout ça. Puis après ça, invite quelqu'un comme Bianca Del Rio qui va rire des femmes, faire des jokes de viol, rire des Asiatiques. Puis mm-hmm. après ça passe, tu sais, donc...
Ça passe, mais ça pas tant passe.
Non, c'est ça, mais en même temps, ça s'est mis sur scène, puis ces choses-là sont dites, puis entendues surtout, puis c'est ça qui est le pire, là, mm-hmm. c'est qu'elles sont entendues par les gens qui sont mis en danger, justement, par ces propos-là, tu sais.
Mais pour faire un lien avec l'univers pop, il n'y a pas RuPaul aussi qui avait dit des affaires à un moment donné? RuPaul n'avait pas dit comme qu'une femme trans pouvait pas être drague ou quelque chose comme ça?
Toutes les femmes peuvent pas être drague.
Donc, pas être drag queen.
C'est ça, drag queen. Donc, fait que toutes les femmes peuvent pas être drag queen, cis ou trans. Mais il a dit aussi que... je pense que c'est Peppermint qui était trans, qui était sur la saison...
ouvertement trans, saison
9. 9, je dirais, oui.
Puis, RuPaul a dit c'est correct parce qu'elle s'était pas encore fait opérer. Mmh. Puis elle avait pas de traitement hormonal. Mais si elle était venue après ça, là, ça aurait été plus correct. Puis après ça, quand il a dit ça, il y a eu un tollé sur Facebook. Il a essayé de faire preuve de sa solidarité en mettant le drapeau trans. Mais il a mis le drapeau des trains.
Des quoi?
Des trains. Le moyen de transport locomotive, des trains. Donc c'est un drapeau vert et jaune. T'sais, donc quand tu sais même pas à quoi il ressemble,
Mais en même temps, c'est drôle parce que je me suis comme pas engueulée, mais j'ai une grosse conversation avec une amie là-dessus parce que moi, je suis pas capable de drag en général parce que bon, elle avait juste RuPaul en tête. Mais je me disais, éventuellement, ce débat-là va dépasser RuPaul. Oui. Tu sais, je veux dire, lui, il va avoir mis en place une plateforme où la drag et son histoire et tout ça est devenue mainstream. Mais les gens qui sont dedans vont le dépasser. Je veux dire, Peppermint, là, elle continue, puis elle a son réseau, puis les autres drags sont. C'est ça. Puis je pense que son ère va terminer. En tout cas, heureusement. Parce que,
l'ère de RuPaul
oui,
va terminer.
Ouais, ouais. Mais ce qu'il aura mis en place va être rendu ailleurs.
Mais c'est ça qui est important. Puis je trouve que ce qui est beau avec tout ce qui touche, qui est populaire, en fait, là, c'est que ça touche tellement un grand nombre de personnes.
C'est ça.
Que ça part des débats de société comme ouais. ça sensibilise du monde à une réalité qui, avant, était très marginalisée. Mm-hmm. Puis là, ça s'en va sur, justement, comme la grande scène du Parc des Faubourgs, par exemple. Mm-hmm. Puis là, les gens réagissent. Puis là, on commence à discuter, puis là, on parle. Mais si Drag Race n'avait pas été aussi populaire, je pense pas que le show aurait été aussi gros non plus, là.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr qu'initialement, RuPaul a fait ça,
mais bon,
il va falloir dépasser vous.
Il va falloir, parce que là, oui.
Mais ça nous rappelle aussi que notre communauté est belle, mais vit quand même sous le joug du patriarcat.
Exact.
Puis, mais j'aimerais ça aussi rapidement parler, je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus, parce que... Il y a la fierté s'est aussi transformée parce qu'il y a tout ce qui a rapport à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais il y a aussi tout ce qui est rapport plus aux minorités sexuelles, si je peux dire, du genre... je sais qu'il y avait une délégation de Polyamour Montréal qui était là. Il y a beaucoup de gens de la scène fétiche aussi qui font partie de la fierté. Est-ce que avez-vous une opinion sur comme leur place dans la Pride? Pensez-vous qu'ils ont ou non leur place?
Moi, je trouve ça cool, puis je trouve qu'ils ont leur place tout à fait, là. De toute façon, si une communauté comme la communauté LGBTQ+, se met à exclure des gens, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui sont déjà, qui mm-hmm. vivent l'oppression puis l'exclusion, tout ça, moi, je comprends pas comment mm-hmm. on se retourne puis on dit, moi, j'ai le droit, mais pas toi, tu sais, donc, quand on laisse la place à l'autodéfinition, ben il faut laisser la place à l'autodéfinition, tu sais, même si c'est des choses avec lesquelles on est moins confortable ou qui sont nouvelles ou qui changent les façons de faire, je pense qu'il faut juste laisser la place pour vrai, tu sais, donc ouais, être prêt à se mettre en danger puis à arrêter de garder la plus grosse part du gâteau, là.
Mm-hmm. Mais de la même manière que, comme, pour la première fois de son histoire, le défilé, celle qui ouvrait le défilé, c'était les femmes trans.
Oui.
Donc, c'est ça, il y a comme déjà, on veut mettre de l'avant des communautés qui sont de plus en plus, bien, qui ont été marginalisées très, très, très longtemps par la fierté. C'est pas pour rien qu'on a enlevé le mot « gay », du mot maintenant.
N'en déplaise à Lise Ravary.
Ouais, c'est ça. Elle dit qu'on a amputé la fierté de son gay.
Mais parce que c'est ça. Parce que gay, ça réfère souvent, plus souvent qu'autrement, à des hommes homosexuels. C'est On ça. Utilise plus ce terme-là pour ça. Donc, effectivement, c'est même un peu. Ça serait vulgaire, je pense, encore de le garder. Là, mm-hmm. comme...
Mais c'est ça. La communauté inclut tout autant les identités de genre que les orientations sexuelles que. Ont d'autres catégories pas des orientations, mais un peu comme la sexualité, l'aromantisme, mm-hmm. toutes les ondes de gris, incluant aussi le polyamour ou toutes ces façons de vivre-là qui sont mises de côté. Ou, c'est sûr qu'avant, la communauté gay était vue comme vulgaire puis indécente, puis maintenant, comme « Ah, c'est ça, c'est acceptable », mais le polyamour ou le kink, c'est plus acceptable.
Ah non, comme... ça, c'est tout des dépravés.
Donc, c'est ça, il y a tout le temps une espèce de cheminement en boucle, là, où quelque chose devient acceptable, mais quelque chose d'autre doit devenir inacceptable, puis là, éventuellement, ça va...
Puis une autre zone d'ombre, c'est les personnes intersexuées aussi, ouais. Mm-hmm. qui sont parfois incluses dans l'acronyme, parfois pas. Puis le truc, c'est que tous les personnes intersexuées vont pas s'identifier comme étant une part de la communauté queer. Donc, je pense qu'il faut, justement, c'est là où il faut prendre un temps d'écouter ces personnes-là, de dire, tu sais, si tu veux en faire partie, tu vas en faire partie, mais on va pas t'inclure de force non plus, là, tu sais.
T'es comme, si tu veux venir, il y a une place pour toi.
C'est ça, c'est d'être accueillant dans le fond. Là, puis c'est ça qui est beau comme avec la parade, justement, où tu vois toutes ces masses de personnes-là, puis tu te sens comme, ben, comme une force du nombre. Là, donc, de vraiment comme d'acceptation, puis de presque famille. Là, le sens de communauté, finalement, qu'on ne sent pas toujours, puis qui pose problème à des moments, mais dans des événements comme ça, qui va devenir... réconfortant, je dirais.
Ah, ça fait beaucoup de discussions sur la fierté, ça.
Ben oui.
Je pensais qu'on allait plus parler de séries Netflix.
Mais on peut y venir, là. C'est, en fait, c'est comme... C'est sûr que là, on parle de la fierté, mais la représentation dans les séries télé ou dans les films, c'est tellement important. C'est tout autant que RuPaul's Drag Race a été important pour la communauté des personnes trans ou de d'autres orientations sexuelles ou de genre, identité de genre, pardon. À la télévision et au cinéma, c'est sûr que ça touche un très grand nombre de personnes. Puis mm-hmm. tu disais, Maud, qu'il y avait une baisse dans la représentation des...
Oui, c'est ça. 2018, dans les films produits par les compagnies là, les plus importantes, donc on passe de 18,4% en 2016 à 12,8% des films qui vont avoir un personnage queer ou LGBTQ. Donc, c'est pas beaucoup. Puis après ça, dans ces 12 % des productions qui vont avoir un personnage queer, 64 % de ces personnages-là sont des hommes gays cis, probablement blancs. Donc, après ça, ça laisse qu'est-ce qui reste pour les autres, pour la communauté, on dit la communauté alphabet, là, donc si on prend juste le G qui a 64 %, ben, les autres lettres partagent presque rien. Donc, c'est ça qui je trouve dommage avec là où la représentation s'en vient. Là, donc...
C'est déjà très peu, là, 18 ou 12 %. Là,
ouais.
C'est,
ouais, puis je pense qu'au niveau de la télé, on parle d'à peu près 5 % des personnages. Donc, pas des productions, parce que le 12 % c'est des productions, mais à la télé, on dit à peu près 5 % des personnages sont appartenant à la communauté LGBT. Donc, là aussi, très peu.
Puis il y a vraiment beaucoup plus de séries avec beaucoup plus de personnages. C'est 5%, c'est excessivement triste.
C'est ça.
Surtout quand on considère que... je pensais, par exemple, à comment il s'appelle le personnage de... Tu sais, dans Riverdale, là, le meilleur ami de...
Jughead.
Non, le meilleur ami de...
Le fils du shérif.
Ah oui.
Parce
que... Dans Kevin? Kevin, mais dans les comics, c'est ça, Jughead était
asexuel.
Canoniquement asexuel, puis finalement, ils ont décidé de tasser ça de côté. Mais ouais, Kevin.
C'est ça, hein, c'est Kevin. Je suis pas folle.
Je pense que oui, c'est ça, mais qui est homosexuel, qui est en amour avec un gars de la gamme. Un petit bum des serpents.
Puis il couche avec Moose aussi.
Oui, c'est vrai.
Le joueur de football, dans
son premier épisode. Oui, qui dit... Ah, ben, tu sais, c'est juste une fois. Je sais pas trop comment est le word, puis comment est-ce correct. On s'en fout, c'est pas grave. Mais c'est juste que, tu sais, comme moi, j'étais comme, ah, c'est cool, premier épisode, puis par la suite...
C'est pas tellement revenu.
On s'en calisse un peu beaucoup, là, tu sais, c'est ça qui était plate, là, puis que justement, tu sais, que dans le fond, c'était... Ils ont mis une histoire d'amour un peu à la Roméo et Juliette, mais ils n'ont pas fait grand-chose non plus avec ça. Fait que...
Bon, cela dit, comme tout dans Riverdale...
j'ai pas écouté la saison 2, je me suis pas fait de violence à ce point-là.
Chaque épisode amène un conflit qui disparaît. En tout cas, c'est vraiment particulier, je trouve. Mais bon, je suis d'accord.
Mais la façon dont on a fait la promotion de cette série-là,
c'est là le problème.
C'est là le problème, parce que sur genre une minute d'image, il y avait 30 secondes que c'était
les deux filles qui s'embrassaient. Ouais.
Puis ça dure justement 30 secondes dans toute l'histoire de la série, tu sais. Puis c'est absolument... C'est rien, là. Ils font juste... ils s'embrassent pour une audition de cheerleader. Puis là, Cheryl leur dit « C'est vraiment pas edgy maintenant, là, de filles qui s'embrassent. » Donc, on met fin là-dessus. Mais c'est des images qui ont circulé vraiment énormément parce que, justement, on allait chercher la communauté queer comme, comme viewers, tu sais.
Mm-hmm. Ouais. En plus, il y aurait pu... C'est tellement un univers qui est plein de potentiel, justement, pour la représentativité des communautés queer parce qu'il y aurait pu avoir un espèce de... Pollicule entre Véronica, Betty.
Ça aurait été mon rêve.
Ça aurait été vraiment cool.
Ça aurait été parfait.
Mais non, ce n'était pas le cas.
Mais moi, je pensais, j'avais calé que 2018 allait être l'année des polyamoureux, comme que le 2017 avait été l'année des trans, là, tu sais, genre dans le sens comme dans représentation pop. Puis je me suis trompée, là. Tu sais, c'est comme peut-être 2019, là. On s'en vient, guys. On va l'avoir.
Parce que là, ça remet en question pas juste... Ça remet en question tout l'édifice des relations puis la structure, alors que, tu sais, sinon, on faisait juste prendre une structure assez hétéronormative puis mettre deux personnes soit de même genre avec des identités de genre variées. Donc, la structure changeait pas, mais là, ça demande comme une réorganisation vraiment plus progressive que... Mm-hmm. Fait que j'espère, mais j'ai comme des doutes.
Ça ferait... C'est un beau potentiel pour renouveler des histoires qui ont déjà été racontées,
oui.
Je trouve.
Oui, vraiment.
Puis en plus, pour parler aussi de cette réalité-là.
Puis arrêter de parler de jalousie, de choses comme ça. Oui, que, enfin. Que les triangles amoureux dans la young adult fiction, je veux dire, maintenant, on peut-tu passer par-dessus, puis...
À la question triangle amoureux, la réponse est « why not both? »
Ben voilà!
C'est ça!
Exactement! Non, mais c'est puis tu sais, c'est comme c'est pour ça que, en tout cas, moi, j'en ai déjà parlé il y a mille et une fois dans plusieurs podcasts, là, mais je trippe sur Hunger Games.
Mm-hmm.
Puis une des affaires qui me fait tripper dans Hunger Games aussi, surtout quand tu lis les livres, je trouve que l'espèce de... Il n'y a pas vraiment de problématique de jalousie entre Peeta et Gale parce qu'ils sont... C'est pas du tout les mêmes...
Il y a même pas de... Je sais, mais ils n'ont pas mis ça dans les films. Moi, ça m'a extrêmement fâché.
C'est ça, parce que dans les films, ils ont mis une scène où Gale, il regarde Peeta, ouais. Puis il fait comme « Ah non, c'est moi qui devrais frencher. »
C'est
tout
mon
ça.
Territoire.
Alors que c'est une non-question dans les livres.
Non, c'est ça. C'est juste comme j'ai Peeta qui me fait du bien, j'ai Gale qui me fait du bien pour des raisons différentes et je vais m'éloigner de Gale. Pas parce que Peeta est meilleur que Gale, mais parce que Gale m'a tellement déçu que c'est un peu inexcusable ce qui s'est passé, puis je pourrais jamais surmonter ça. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très mature dans cette relation-là, puis de la façon de voir justement ces relations-là.
Puis c'est aussi ancré dans le contexte, moi, c'est ce que j'avais trouvé. C'était une espèce de refus du romantisme. Tu sais, on s'entend, ils sont en train de crever, là.
Oui, voilà.
Ils n'ont pas le temps. Elle a d'autres choses à gérer, Katniss. Elle va s'attacher, mais je veux dire...
Puis c'est ça, puis dans l'adversité, il va y avoir des rapprochements, puis il va y avoir des besoins de s'accrocher à des bouées exact. Que sont ces deux garçons-là, tu sais, puis c'est
dans
carrément ça.
Dans des moments
exactement.
Qui créent ça, oui.
Fait qu'en tout cas, ouais, bref, mais bon, Hunger Games, pour moi, est une young adult un peu au-dessus des autres, là, mais ouais. ça c'est... Je zéro... zéro, comment qu'on peut dire?
Objectif.
Objective.
Mais ouais, pour revenir, c'est ça, j'ai essayé de chercher, parce que j'ai vu la semaine dernière que le créateur ou l'écrivain de la série animée Voltron avait été accusé de queerbaiting, puis ça revenait un peu aussi sur la table comme sujet, là. Donc, je sais pas si vous avez... Puis, on parlait aussi du cas Dumbledore. Mm. Donc, c'était en 2007, officiellement, que J.K. Rowling a déjà annoncé... Ouais, c'est ça, ça fait un bout, hein?
Hey, je rajeunis pas.
C'est ça, c'était pendant une tournée de livres, elle était à New York.
Mais c'était, dit, c'était avant le 7, je me rappelle.
C'était juste, c'était, juste avant l'apparition du, sixième film.
Oui.
Le cinquième film venait de sortir pendant l'été. Puis là, elle a annoncé pendant l'année que... Ah oui, ben oui, il y avait eu quelque chose entre Dumbledore et Grindelwald, parce que justement, il fallait qu'elle explique les motivations derrière le personnage aux personnes qui faisaient les scénarios et aux acteurs. Donc, il fallait que... Ça c'est ce que j'admire beaucoup de J.K. Rowling en général, comme outre plein d'affaires qu'elle a faites de pas correct, c'est qu'elle prend vraiment le temps de mettre la table, puis il y a comme une psyché derrière ces personnages, mais...
De mémoire, me semble, Dumbledore, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait... quand le septième livre était sorti, on y avait dit... puis là, on savait que Dumbledore était décédé, et là, c'était comme... est-ce que Dumbledore a déjà eu une blonde? Est-ce qu'il avait une femme? Mm-hmm. Puis elle avait répondu, ben Dumbledore, il est gay, fait que c'est comme non. Puis là, ça a juste fait comme un... Quoi? Dumbledore est gay. Puis je me rappelle que c'était avant la sortie du septième en français, parce que quand j'avais lu le livre, j'avais comme ce filtre-là par-dessus. Ça, j'avais comme ces lunettes-là de, comme de lecture de « Ah, OK, là, je vois d'autres affaires ou je réinterprète d'autres affaires que j'aurais pas lu pareil, je pense. »
C'est ça. Mais le débat était revenu sur la table récemment, au mois de février dernier, quand on annonçait qu'il n'y aurait pas de mention explicite, justement, de cette relation-là entre Dumbledore et Grindelwald dans le prochain film des Fantastic Beasts. Donc, les gens sont comme « Bélou! »
Bélou!
La raison première qu'ils ont annoncé, c'est que les deux personnages n'allaient jamais apparaître ensemble au même endroit, au même moment.
Ce qui est une excuse bidon.
Ben,
ouais, c'est ça.
Ben, et là, je citerai mon amie Tamara, Tamara Rousseau, qui fait de la radio avec les Amazones, mais qui avait raconté un moment donné une des raisons principales pourquoi il n'y a pas de représentation queer dans les films. C'est à cause que l'argent est fait majoritairement avec l'exportation des films dans les pays asiatiques et en Chine. Et en Chine, ils vont accepter comme une vingtaine de films américains par année, américains occidentaux par année. Fait que s'ils veulent passer, il faut qu'il y ait certaines... Il faut qu'ils rentrent dans certaines cases. Puis la représentation queer coupe souvent l'accès à ces films-là des salles chinoises.
Faut pas négliger le public chinois dans la balance parce qu'ils font vraiment, vraiment beaucoup d'argent là-bas.
Exactement.
Là.
Fait que c'est peut-être une des raisons pourquoi est-ce qu'ils font pas ce move-là, mais en même temps, c'est vraiment décevant parce que t'es comme, bon, ben, OK, bon, on va continuer.
Comme les jeux vidéo, ils coupent les scènes.
Ouais, genre deux versions.
Comme le film dans l'avion. Moi, j'ai vu Carol dans l'avion. Elle se touche pas.
Ah!
Je suis comme, je vais le réécouter chez nous. Non, c'est ça.
Il y a une
version. Oui, parce que comme le baiser avec le gars, c'est correct, mais le baiser avec une femme, c'était explicitement sexuel, puis c'était pas convenable pour un jeune public. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est
notre histoire. Pourquoi on parle pas de ces choses-là dans les médias? Et où Lise Ravary quand il y a des vrais débats?
Des vrais débats.
Seigneur.
Il y avait pas la vie d'Adèle aussi qui avait été coupée sur Netflix? Comme les scènes explicitement...
Possible.
En tout cas.
Il y a quand même beaucoup plus à couper dans la vie d'Adèle que dans Carol. Tu sais.
Le film fait 15 minutes. C'est un court-métrage.
C'est un film d'artiste.
Exact.
Wow.
Mais ouais, c'est ça. Il y a eu Dumbledore. Puis là, avec l'apparition du dernier solo, c'était le personnage de Lando. Là, que les gens avaient annoncé qu'il était...
Il était pansexuel.
Mais comme...
Avec aucune mention dans le film.
Comme... Puis je sais pas si c'est comme un peu offensant de dire qu'il était pansexuel parce qu'il pouvait triper sur un robot, là.
Hein? Mais voyons donc, tabarouette.
Parce que dans le film, il est comme clairement en amour avec son robot.
Mais là, il pense que pansexuel, c'est genre... En tout cas, c'est encore une fois l'espèce de...
C'est une attraction au frying pan. Fait que là, tu sais, le robot, la poêle...
Oh my God! mais c'est de continuer à penser, genre, justement, que les personnes qui s'identifient comme bi, pan, tout ça, sont des dépravés qui vont juste coucher avec tout ce qui bouge, là. Fait qu'en tout cas, c'est choquant.
Oui, oui, c'est ça. Ça fait suite à comme une longue tradition de représentation des personnes bisexuelles et pansexuelles à la télé et au cinéma, comme des gens qui veulent juste les plaisirs de la chair.
Comme dans Westworld.
Comme dans Westworld.
Mais Lando n'était pas le seul, en plus, qu'on a dit bisexuel ou pansexuel ou gay ou peu importe. J'ai fait une petite liste pour le fun, tu sais. Kate McKinnon dans Ghostbusters, oui. c'est jamais explicité.
Ouais.
Ocean 8 au complet.
Oui.
La Belle et la Bête, c'est le film le plus gay de Disney où il faut, ouais. faut pas que tu fermes les yeux parce que sinon tu manques la scène où on voit je sais même plus son nom,
le
qui danse avec
le
fou avec un, qui danse avec un autre ouais. homme. T'sais, donc c'est ça qui a été coupé au montage dans l'exportation justement parce que c'était pas moral. Ouais, c'est
parce que tout au long du film t'as des hints de comme je suis en amour avec toi Gaston.
Oui oui.
Ouais. Mais à la fin il danse.
Mais le seul moment c'est ça où on voit comme quelque chose qui pourrait se passer, c'est comme un slow dance, puis ça passe en arrière-plan là, en 4 secondes.
Avec l'homme qui était bien heureux d'avoir été travesti durant la bataille.
Ouais. Oui!
C'est le travesti et le gay qui se ramassent ensemble.
Eh oui!
Mais dans la version de Broadway, en fait, de La Belle et la Bête, il y a explicitement un baiser entre Gaston et le fou.
Ouais.
Donc, mais en fait, le fou qui embrasse Gaston qui fait comme décolle, maudit, qu'est-ce que tu fais là, puis qui donne un coup de poing, je pense. Puis après, on n'en parle plus jamais.
Ouais,
oui,
le relation toxique. Oui.
Mais dans la version Broadway, par exemple, il n'y a pas la rédemption du fou, là, si tu veux. Il n'y a pas l'espèce de. Pas du fou, mais de le fou, qui va. Justement, dans le film, où est-ce qu'il dit comme, ben, je vais sortir de cette relation toxique-là, puis je vais avancer. Qui moi, m'a fait du bien à
oui,
regarder.
Oui, ça fait cute, mais tu sais, on. Surtout qu'au niveau de la quantité ouais. de représentation, c'est quand même assez limité.
En même temps, c'est comme, pour revenir aussi à Star Wars, c'est Disney.
Ouais.
Je pense que Disney, ouais. il veut jouer safe là-dessus, parce qu'il y a comme toute l'espèce de battement médiatique avec ces personnages-là, de faire genre, ah oui, ils sont queer, puis c'est jamais représenté.
Mais comme Elsa que... aussi, la possibilité ouais. que dans le deuxième, il lui donne une blonde, puis tout.
Fait que là, c'est ça, on veut s'attirer la sympathie de la communauté queer à l'extérieur de la représentation du film.
Sans s'aliéner du reste.
Les parents qui ne voudraient ouais. pas montrer ça à leur enfant.
J'allais le dire, il y a beaucoup d'autocombustion qui vont se passer dans des maisons. Là, si ça se passe, t'imagines-tu?
Mais donc,
ma mère va bien brûler.
Mais ça, c'est
on la salue.
Mais c'est toujours l'espèce de débat de comme, on veut pas que vous forciez vos valeurs sur nos enfants, puis vos t'sais, comme si c'était un choix, là, t'sais, comme, on veut pas que vous forciez vos affaires sur nos enfants, puis c'est comme, oui, mais vous avez forcé sur notre enfance l'hétéronormativité.
Mais
et...
puis vous forcez ça sur vos enfants aussi.
Exactement, t'sais, puis le... t'sais, avec des petits chandails de petits gars, genre girl lover, puis
genre des petites filles, genre, qui font juste dire « I'm cute ».
Oui, exactement. Ah, où est-ce qu'on force le genre puis on force la... En tout cas, bref, mais ça, c'est... Je pense qu'on parle entre convaincus
oui,
autour
oui,
de la table.
Ouais.
Mais c'est ça, je pense que dans la représentation, tu sais, comme... Tu sais, une représentation comme le fou, je trouve, comme fait une... Même si c'est pas... Tu sais, c'est pas représentatif, mais je pense que ça peut même être représentatif d'une personne qui doit le vivre en cachette,
oui.
tu sais.
Mais ça force une normalisation de comportements qui ne sont pas considérés normaux dans beaucoup mm-hmm. de sphères aussi. T'sais, ça, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Mm-hmm.
C'est comme une brèche. Puis j'avais trouvé aussi que le personnage de Kate McKinnon dans Ghostbusters, c'était ça aussi. T'sais.
C'est ça, mais en même temps, quand on a 12,8% des films qui...
Je sais.
Donc, c'est là que ça devient un problème. C'est quand il y a déjà un nombre qui est vraiment minuscule. Puis après ça, il y a un nombre minuscule de ceux-là qui sont ouvertement dits, tu sais, ou... Mais c'est la même chose, Pitch Perfect avait promis un baiser entre Becca et Chloé, puis la scène a été coupée au montage. Jurassic Park 2.
Et la question, c'est pourquoi tu voulais cette. Ben, ouais, j'ai pas vu le. C'est Pitch Perfect 3, j'imagine.
Pitch Perfect 3, ouais.
J'ai juste vu le premier, mais c'est comme. Hey, on vous jure qu'il va avoir un French, puis c'est comme.
Mais parce qu'il y a vraiment une communauté forte qui ship Becca Chloé.
OK.
Puis, tu sais, depuis le premier film...
Mais il n'y a pas vraiment de...
Mais leur première rencontre est tout nue dans la douche.
Oui, mais c'est tout.
Je sais, mais, tu sais...
Oui, je peux comprendre la communauté, là.
C'est ça, mais en même temps, c'est encore du queerbaiting.
Vraiment.
On vous promet que vous ne serez pas déçus, puis finalement, on... Non seulement, tu sais, ça, il n'est pas dans le film, mais ils ne veulent pas le sortir non plus comme scène coupée.
Mm.
Fait que là, il y a tout un mouvement release de kiss autour de ça, mais tu sais, donc c'est mais la même chose dans Jurassic Park 2, on a coupé la scène où le docteur Rodriguez dit que les hommes ça ne l'intéresse pas. Valkyrie Dantar, la même chose, on dit qu'elle est, je pense, lesbienne ou bisexuelle. Mais bref, on le dit en dehors.
Dans
ton
Ragnarok,
film.
Là, le...
ouais.
OK.
Ouais, Valkyrie, ouais. Tessa
J'ai
Thompson.
J'ai l'impression aussi que ça, c'est avec Tessa Thompson puis Kate McKinnon, ça joue aussi avec l'identité, ben, l'orientation sexuelle des actrices.
Ouais.
Ben, c'est ça, parce qu'elles veulent jouer des personnages qui les ressemblent. Fait que nécessairement, ça va transparaître dans leur jeu. Mais c'est ça, les producers...
Mais il y avait aussi une scène de Valkyrie qui a été coupée où il y avait explicitement une romance ou quelque chose comme ça. Là, donc, c'est comme un réflexe, on dirait, d'aller couper ces scènes-là en premier. T'sais. Oh, notre film est trop long, on va faire pour qu'il puisse rentrer en Chine. On coupe cette scène-là, c'est deux problèmes, une paire de coups. Là. Mm. Donc, donc, en plus qu'il y a eu une baisse dans la dernière année, il y a tout ça qui entre en jeu. Là, donc... ça pose vraiment la question de quelle représentation il nous reste puis quel contrôle on peut avoir là-dessus aussi. Là.
Ouais. Je trouve ça intéressant aussi que la communauté des fans ait vraiment un poids quand même considérable dans la balance où on demande ces représentations-là. On les obtient pas, malheureusement, puis on est toujours déçus, mais on les demande incessamment avec le shipping, avec les fanfictions, C'est sûr que, mettons, avec Dumbledore, on a réussi à l'avoir. Presque.
Mais c'est J.K. Rowling est prête à en donner, là, tu sais, il y a l'espèce de roue qui circule, là, donc qui fait, la joke, c'est J.K. Rowling au hasard qui fait « OK, pèse sur un bouton, tel personnage va être telle identité, parce que il va arriver tel événement loufoque, tu sais. »
Mais c'est J.K. Rowling est vraiment à l'écoute de son fandom, c'est ça qui est quand même respectable.
Moi, c'est comme ça que je choisis les orientations sexuelle de mes personnages de jeux de rôle. quand je commence un nouveau personnage en grandeur nature, je fais comme, OK, j'ai un des 10, voici 10 identités.
des pots avec des trucs qui appuyés dedans.
Puis je l'ai fait pour mon personnage que j'ai commencé l'été 2017. Puis j'ai pogné hétérosexuel et j'étais très déçue. Oh. Mais j'ai décidé de respecter le jeu.
T'aurais dû l'enlever de ta liste.
J'aurais dû.
Il y en a déjà assez comme ça.
Voilà.
On va parler des choses le fun aussi, tu sais. Parce qu'on a parlé beaucoup de choses pas le fun.
Mais... ben, j'ai une dernière affaire pas le fun à dire, mais c'est parce que c'est ça. Je trouve que il y a souvent des films. J'en ai parlé un peu hors d'onde avant qu'on rentre, mais je trouve que souvent. Dans la représentation des LGBTQ, on va parler, mettons, d'un personnage qui va être soit... ça va être le gay de service, là, si je peux le dire. Là, c'est comme, qu'est-ce qu'il est? Il est gay.
T'sais. Le GBF. Puis,
Exactement. Et s'il y a soit ça, qui serait comme, mettons, l'opposé de ce qu'on vient de parler du queerbait, comme, justement d'avoir comme ce personnage-là qui n'est représenté que par ça. Puis lorsqu'on va aller plus dans une certaine profondeur, ben, ça va être comme, ah, ben, c'est parce qu'on va expliquer à quel point c'était difficile d'être qui elle, il est, tu sais, on va expliquer comment c'est dur à être gay, puis c'est comme, j'ai hâte d'avoir des films où les personnages vont être ouvertement de la communauté queer, vont avoir des partenaires représentatifs de ce qu'ils ont envie, et que ça soit pas le défi tourne autour de ça, tu sais, comme par exemple d'avoir un film... par exemple, qui mettrait en vedette deux personnes du même sexe, du même genre, qui sont en amour. Puis le défi, ça sera pas juste de faire le coming out aux parents, mais ça va être de dealer avec n'importe quel autre problème de comédie romantique qu'on vit de toute façon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Genre les beaux-parents.
Genre les beaux-parents, c'est ça, exactement.
Meet the fuckers, gay.
Puis je trouve que c'est difficile, parce que, tu sais, comme mettons, il y a sûrement des gens qui pourraient dire comme, ah, oh, ben... mais au contraire, c'est important de continuer à parler des difficultés parce qu'il y en a encore. Puis c'est comme, oui, c'est vrai, mais quand ce n'est que pour ça que ça sert de parler de la communauté, c'est
on
comme...
bouge pas.
C'est exactement, tu sais. Alors que si on... tu sais, justement, si on... Puis ça me fait penser un peu à... Je sais pas si vous vous rappelez, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, il y avait eu Jasmin Roy qui était allé parler de la fierté... qui était allé parler de la fierté avec comment il s'appelle, Sébastien...
Je sais plus où il était, je sais pas sur quelle plateforme.
Mais c'était sur RDI, je me rappelle très bien. Puis le journaliste que j'ai oublié
Sébastien
son nom.
Sébastien Beauvais.
Voilà, puis qui dit... Ah oui, Sébastien
Beauvais? Je sais pas, je dis Sébastien Beauvais, mais non, ça me semble bizarre.
Non, mais il y avait un journaliste qui dit, ben tu sais, moi, Jasmin, je suis gay, puis nanana. Puis là, t'as Jasmin Roy qui fait comme, ben oui, mais tu sais, nous autres, notre communauté, puis continue à parler. Et le lendemain, dans les journaux, placardé partout, c'était un journaliste de Radio-Canada dit qu'il est gay, et tout le monde deal bien avec ça.
C'est ça.
C'était la nouvelle.
C'était comme... Ça a passé dans le beurre. Ça a pas passé dans le beurre.
Hey guys, maintenant on a tellement fait des avancées qu'on est plus des homophobes que genre les gens peuvent faire un coming out de même.
Sans que ce soit un coming out.
Exactement. Puis là, c'était comme, moi j'étais comme, mais vous venez de tout briser le principe en faisant tous vos titres là. Tu sais, justement, on aurait dû continuer à faire comme si de rien n'était.
On sort tous les tambours et les trompettes pour dire qu'on n'a pas, on n'a pas fait une grosse affaire avec la.
Exactement.
Ils voulaient leur biscuit.
Fait que c'est comme, fait que là, ça va être le premier film genre une comédie romantique sort. C'est deux gays, puis ça tourne pas autour du fait qu'ils sont gays. C'est juste, ça donne de même. Puis là, ils vont être partout. Puis je suis comme, ah, guys!
Mais on dirait qu'avec les films réalistes, on a de la misère à faire ça. Mais tu sais, ça s'en vient un peu avec les super-héros. T'sais, on a eu Deadpool avec le personnage de X-Men qui avait une blonde. Puis là, ça, c'était explicite. Puis on va avoir Batwoman avec Ruby Rose.
Ouais.
T'sais, donc, je pense qu'on a moins de difficultés à faire ça comme ça parce que là, l'action prend la place principale. T'sais, puis là, on peut leur trouver d'autres choses à faire que d'être gay ou d'être bisexuel ou d'être pan.
C'est sûr que dans une comédie romantique, c'est le problème principal ou l'action principale tourne autour justement de ces questions-là.
Mais en même temps, dans les comédies romantiques pour hétéros, ils ne font pas juste dire « je suis hétéro ».
Non, on est
fait. Non, mais je veux dire, c'est la base du drop.
Oui.
C'est ça le problème. Là.
Mais c'est qu'on a de la misère à leur imaginer d'autres histoires aux personnages queer, justement, dans des histoires réalistes. T'sais.
Puis il y a moyen, je pense aussi, je pense, mettons, à Steve Carroll dans Little Miss Sunshine, tu sais, comme...
Mm-hmm.
Oui, le personnage est homosexuel, mais c'est beaucoup plus important de parler de la santé mentale dans son cas que de parler de son homosexualité. C'est juste que c'est comme je suis en peine d'amour. Ah, by the way, c'est avec un gars, puis ton frère, il est pas tendance avec ça parce qu'il est un peu homophobe, mais c'est pas ça le point important. C'est surtout que, genre, j'ai essayé de me suicider. T'sais. Fait que, tu sais, c'est comme. Ça peut être ce genre de représentation-là qui serait comme entre les deux, là, je sais pas.
Ouais. Vous savez, dans le nombre, c'est quand on va avoir plus de diversité puis plus de rôles comme ça, où on n'est pas obligé de faire tout un film autour de ça, on peut en semer un peu partout. Donc, ça va arriver, mais il faut qu'il y ait comme une explosion du nombre puis de la diversité.
Ouais, ben, c'était un peu. Avez-vous écouté Au secours de Béatrice?
Non.
Mais moi, c'était un de mes couples préférés à l'écran, le couple formé par je ne sais plus qui.
Elles sont bonnes,
tu vas me trouver ça. La patronne de Sophie Lorrain et sa tante, je ne sais plus. Mais ce n'est pas important, en fait. Ben, en fait, il y en a une des deux qui est mariée, l'autre qui découvre une attirance pour une femme, mais leurs problèmes de couple ne viennent pas forcément de ça. En tout cas, c'était le fun. Puis en plus, c'est deux femmes âgées. Ce qu'on voit jamais à l'écran non plus.
Ce qu'on voyait un peu dans Jessica Jones, tu sais, comme, mettons, c'était pas aussi âgé, mais c'était comme...
Oui, c'est vrai, avec... tout à fait.
Avec Carrie Ann Moss, puis l'autre actrice que j'oublie son nom. En tout cas, bref. Mais tu sais, comme que, justement, c'est Carrie Ann Moss qui est pas fine, tu sais. elle est pas fine, mais tu sais, c'est juste parce qu'elle a des comportements problématiques, mais c'est pas à cause du fait qu'elle est lesbienne, tu sais.
Non, puis il y a ça aussi. Moi, je trouve ça bien de voir des femmes pas fines.
Ben oui, voilà.
Ça aussi, là.
Mais c'est comme on disait, c'est avec la quantité d'histoires qu'on a à raconter qu'on va pouvoir commencer à raconter des trucs originaux. Si on a juste comme 12% d'histoires à raconter, voilà. Ben, comme ça donne pas beaucoup de latitude, justement, pour dévier de ces problématiques-là. Quand on a juste 12%, d'essayer d'aller au cœur du problème puis d'essayer de, justement, de problématiser ces choses-là.
C'est voilà. Là que les stéréotypes entrent en jeu aussi. T'sais, on présente juste dans une année cinématographique, un gay qui essaie de se suicider, mais là, le stéréotype vient que bon, ben, les gays sont déprimés. Puis là, si on en présente juste un qui est efféminé, mais ben, tous les gays sont efféminés. Donc, c'est sûr que moins il y en a, plus on est dans ces schèmes-là qui sont vraiment rigides. Peu représentatifs des vrais gens, là, en plus.
C'était la même chose avec les personnages féminins avant. Maintenant, on a réussi à en inclure plus. Puis on peut avoir des histoires diversifiées. On peut avoir des femmes méchantes, par exemple.
Oui.
Ginette et Bernadette.
Qui sont un couple.
Oui, ben en fait, Ginette ou Bernadette. Bernadette était mariée. Mais tombe amoureuse de Ginette, qui était hétéro jusque-là. On va mettre ça en gros guillemets. Là,
oh oui.
Là, Ginette et Bernadette se découvrent un amour, mais finalement, ils deviennent un couple à trois avec l'ancien mari de Bernadette. Puis après ça, en tout cas...
Triade!
Ben oui,
il y a
un début de triade. Est-ce que ça fonctionne? Je me souviens plus et je pense que non. Mais on est dans quelque chose que moi, j'avais jamais vu à l'écran. Et je répète encore des femmes d'une soixante-dizaine d'années. Là, donc, j'ai trouvé ça agréable. Je les aimais, Ginette et Bernadette.
Mais c'est bien aussi quand c'est pas juste accessoire. Là. Je pense, tu parlais d'un couple de femmes âgées. Moi, je pensais à la série Broadchurch, si tu l'as vu. Là. Mais il y a, l'histoire d'un journaliste et justement, comme une espèce de peine d'amour. Mais c'est tellement passé. C'est très euphémisé.
Ah, oh, la journaliste, OK. Je pensais que tu parlais. OK, j'étais plus dans les problématiques LGBTQ. Mais oui, OK.
Oui, oui, c'est ça. C'est comme vraiment dans le background. C'est là, c'est représenté, mais c'est très, très, justement, accessoire à tout le reste. Là.
Oui, alors que là, ils ont des problèmes. Genre, on est tombé en amour, j'étais mariée, j'ai un divorce, on fait comment? Donc, oui, c'est des problématiques qui peuvent être LGBTQ, mais qui participent aussi de plus large. En tout cas, j'ai trouvé que là-dessus, ils avaient fait un bon coup. Après, je sais plus trop comment ça finit. Peut-être ça se finit encore en drame, ce qui serait dommage.
Mais est-ce qu'il y en a des deux qui meurent?
Non.
OK.
Non, elle a juste la varicelle des personnages. Et voyons.
Le zona.
Merci. Oh. Alors, sort. Elle sort de son zona. Ah,
mais c'était dans les... Kimchi Cuddles, je pense que ça s'appelle pas Kimchi Cuddles, mais Kimchi Scribble, ah, j'ai oublié son nom, mais c'est une dessinatrice de bande dessinée, puis qui avait fait une bande dessinée qui s'appelait Ask Me About Polyamory, puis à un moment donné, il y avait le personnage de sa représentation d'elle-même dans ses bandes dessinées qui parle avec son amie, puis qui dit « J'ai vraiment de la difficulté à parler de mon polycule parce que je veux pas parler des mauvaises affaires parce que les gens vont tout le temps mettre ça sur la faute du fait que c'est parce que c'est parce que j'ai pris un choix compliqué. » Puis ils vont dire que c'est à cause de mon choix de relation. Puis ils disent, ah, tu peux te donner un exemple? Ben, des fois, je chicane. Des fois, on s'entend pas bien. Des fois, on a de la difficulté à prendre une décision. Puis nanana. Puis là, c'est ça. Puis ils disent, ben, dans le fond, ce que tu me décris, c'est juste une relation normale, tu sais, une relation de couple. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est ce qui est plate à l'écran, quand ce qu'on dit, dans le fond, depuis tantôt, c'est quand les représentations sont excessivement déprimantes, tristes, qui finissent mal, ben là, comme si on a que ça, ben, ou qu'on a tout le contraire, tu sais, comme que des belles relations qui sont parfaites, ben c'est comme si ça mettait des attentes ou ça envenimait des fois des visions sur la communauté, alors que si on avait une belle diversité, et dans la représentation de des orientations et des identités de genre, mais aussi tu sais, il y a des gens gays qui sont désagréables et ça serait chill d'en avoir.
Puis ouais, c'est pas parce que t'as une relation homosexuelle qu'elle peut pas être toxique. Là.
Exactement.
Mais ça fait toi une bonne personne.
Exactement. Puis que tu sais, exactement. Voilà.
Ouais, mais c'est ça aussi, il y a le fait que, mettons, quand on représente des problèmes qui sont, peu importe, n'importe quelle communauté marginalisée, il y a tout le temps il y a comme une stigmatisation du fait que, ah, Steve Carell dans Little Miss Sunshine est déprimé, fait que toutes les personnes gays sont déprimées. Mm-hmm. C'est comme, non, tout le monde est déprimé, de toute façon.
Mais c'est la corde raide sur laquelle on se retrouve tout le temps à marcher.
Mais il y a toujours la tendance du plus grand nombre de faire comme, ah, parce que c'est une communauté marginalisée qui est représentée, le problème est comme coincé avec cette représentation-là, au lieu de juste dire, ah, c'est quelqu'un.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Mais même chose pour les personnes racisées, même chose pour peu importe.
Mm-hmm.
C'est ça, il y a encore cette tendance-là, puis c'est juste avec le nombre qu'on va pouvoir atténuer ces stigmatismes-là. Là.
Puis laisser des personnes concernées dans les chambres, ben en fait, dans les places où on écrit les scénarios aussi, là, tu sais, pas juste donner la parole toujours aux mêmes personnes, c'est là que ça va changer aussi.
Mais c'est pour ça qu'ils ont annoncé la série des gens qui vont scénariser la prochaine saison de Doctor Who, puis je suis vraiment excitée parce que c'est vraiment un beau panel diversifié de personnes. Fait que, tu sais, ça commence un peu, mais c'est ça, il faut engager les bonnes personnes pour écrire les bonnes histoires, puis il faut t'engager les personnes concernées pour raconter leurs histoires et non pas encore toujours des hommes blancs, cisgenres.
Ou Scarlett Johansson.
Mais ça, c'est un autre sujet aussi de toute l'affaire du casting et de justement le personnage qui va être représenté parce qu'il y avait eu la polémique avec The Danish Girl, donc qui est une histoire sur une femme trans, mais qui le personnage principal est joué par. Comment il s'appelle?
Eddie Redmayne.
Oui, c'est ça. Mais donc, il y avait ça. Puis là, avec le film... j'ai oublié c'est quoi le nom du film. Donc, avec Scarlett Johansson.
Mais, tu sais, Danish Girl, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est le film sur une transformation. Puis c'est souvent c'est moins compliqué. Mais c'est la même affaire qui se passe avec Insatiable aussi, où est-ce qu'on dit on va parler... Bon, il y a plein de problèmes avec Insatiable. Là, mais entre autres, il disait, bon, on va parler d'une personne qui perd du poids, puis c'est bien moins compliqué de mettre un fat suit sur une actrice qui pèse 102 livres mouillés que de demander, mettons, une personne... de perdre du poids ou de whatever, tu sais, comme, tu sais, même si c'est comme, c'est effectivement, ça fait des représentations malsaines de comment ça fonctionne. Le mais, corps, là.
Je me posais la question aussi quand on fait l'histoire d'une transition, mais si l'acteur ou l'actrice est consentant, c'est déjà mieux de prendre une personne trans pour faire l'histoire que de prendre une personne cisgenre pour faire l'histoire.
Mais je pense que le consentement est important. Puis là, je parle de ce que j'ai entendu, encore une fois, pas parce que je veux m'approprier un débat, puis j'inviterais quelqu'un qui dit que je dis des niaiseries à me lancer une pierre, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient peut-être trouver ça violent de se...
De se retravestir,
mettons.
De repasser à travers ce processus-là, qui est un processus quand même assez difficile émotionnellement, là.
Ouais.
Mais,
le problème vient de comment on attribue les rôles aux personnes trans, parce que beaucoup d'actrices trans vont se présenter pour des auditions pour un rôle trans, puis ils vont se faire dire « t'as pas l'air assez trans ». Ils vont se présenter pour un rôle pour une personne cis, puis là, ils vont dire « t'as pas l'air assez cis ». Donc, tu sais, si on peut casser des actrices ou des acteurs trans dans des rôles, ben là, il y a une flexibilité qui s'en vient. Tu sais, je veux dire, mais si ces personnes-là travaillent pas, puis que là, on crée des rôles trans, puis qu'on les donne pas à des personnes trans, on fait juste comme promouvoir le même registre, puis les mêmes personnes toujours. Donc, tu sais,
on reste dans le cercle vicieux, là, on n'essaie pas d'en sortir. Mais de la même manière qu'avec la polémique justement entourant Batgirl et Ruby Rose, qui a été chassée de ses réseaux sociaux à cause du harcèlement des fans qui disaient qu'elle n'avait pas l'air assez gay pour jouer Batgirl.
Ben voyons donc.
C'est ridicule,
Batwoman,
Hein?
Ouais, c'est ça. Les gens, ils sont faits comme non, t'es pas assez gay pour jouer Batwoman.
Comme l'année passée, c'était l'épidémie de ce que ça avait l'air une fille queer, Ruby Rose, là, tu sais.
Ouais.
Quand elle était dans Orange is the New Black, tout le monde était comme voici ce qu'est une personne.
Ce qui est super violent pour les personnes femmes, là.
Mais c'est ça. Donc, il y a comme, tu sais, autant les fans peuvent être un vecteur de changement, autant ça peut être comme renforcer justement l'hégémonie qui est déjà en place, là. Donc, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur le sujet?
J'ai vraiment l'impression d'avoir sorti beaucoup de méchants.
Ça fait du bien, hein?
Ouais. C'est vraiment le fun de pouvoir en parler, comme vraiment juste comme en discuter.
Moi, j'espère que des non-initiés vont nous écouter.
Oui,
j'espère aussi. En tout cas, moi, si j'étais non-initiée, j'aimerais vraiment entendre une émission comme ça, parce que c'est à travers des expériences comme ça, écouter des podcasts ou regarder des émissions ou des documentaires ou même prendre des cours à l'université que j'ai été sensibilisée à ça. T'sais. Ça arrive pas du jour au lendemain.
Non, tout à fait.
Puis la fiction, ça l'aide beaucoup pour ça aussi, de justement nous proposer des récits auxquels on peut finir par s'identifier puis mieux se connaître à travers ça.
Mais comme je répète souvent, c'est Buffy qui m'a fait me réaliser que les lesbiennes, ça pouvait s'embrasser. Puis je le savais pas.
Ça a pris
pas.
Du temps,
les lesbiennes s'embrassent.
Puis j'avais des lesbiennes dans mon entourage, mais c'était un couple, tu sais, de femmes comme plus âgées, puis ils s'embrassaient pas devant le monde. Fait que ça m'a pris Buffy pour faire comme « Ah! » Ils peuvent faire comme les couples hétéros, les lesbiennes.
Tu l'as attendu longtemps, dans Buffy, en plus.
J'ai attendu longtemps, puis j'avais pas le câble, fait qu'il a fallu que j'attende les DVD, t'imagines. Mais c'est là que la représentation devient super importante, puis que c'est... qui ont un devoir, là, les créateurs et les créatrices, de ces représentations-là.
Ah oui, mais au moins d'en mettre beaucoup puis d'avoir une bonne diversité, c'est la même chose pour toutes les communautés marginalisées aussi. Là. Mieux il y en a, mieux on se porte.
Oui, puis ça sort de nulle part, dans le sens que moi, je me souviens... OK, c'est vraiment pas un bon exemple, mais c'est quand même mon histoire. J'ai écouté Brokeback Mountain et ça m'a pris une demi-heure à me remettre parce que j'ai réalisé tout l'amour que j'avais pour une personne du même sexe. Je veux dire, puis c'était une fille.
Ouais.
Ça n'avait aucun rapport avec le récit qui était décrit devant moi, mais je veux dire, la force de leur amour était le même que n'importe quel amour hétéro pour moi. En tout cas, on avait quel âge quand c'est sorti? J'étais comme dans une espèce d'effervescence de l'adolescence. Je devais avoir 18 ans, là, donc j'étais full-on love... voilà, puis donc oui, la représentativité, puis elle peut venir de partout, puis elle peut venir de donc ouais,
ça ouvre des possibilités. C'est ça qui est important avec la fiction, c'est que ça nous ouvre des possibilités dans notre esprit où on peut justement apprendre à se connaître avec ça et mieux s'accepter en tant que personne.
Mais c'est surtout parce que, tu sais, comme personnellement, comme quand j'étais enfant, j'étais très très amoureuse rapidement de mes petits camarades de garderie, puis justement, tu sais, j'avais tellement eu de J'avais tellement vu de représentations d'hétérosexualité que quand je voyais les petits gars puis que j'ai trouvé cute, j'étais comme « Ah, oh, t'es cute! Je t'aime! » Voilà, c'est comme ça que ça marche. Puis là, je voyais les filles, puis je vivais quelque chose que je comprenais pas pendant tout. Fait que j'étais comme « Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de l'impressionner, cette personne-là. J'ai vraiment envie qu'elle soit mon amie. J'ai vraiment envie d'y faire des tresses, je pense. Mais je comprends pas qu'est-ce que je vis parce que je savais pas que ça existait.
Non, c'est ça.
Mais du moment où est-ce que j'ai su que j'existais, que ça existait, j'ai fait comme « Oh! »
C'est ça.
Ça met un mot puis une expérience. Ça permet, ça donne la permission pratiquement.
Puis je me sentais pas très bien aussi de vivre ça parce que j'étais comme « Je sais pas ce que je vis, mais vu que ça m'a jamais été... »
C'est pas quelque chose qui existe.
C'est pas un récit qui existe.
Ça a été montré,
C'est ça. Puis là, tu te sens comme pas correct puis brisé, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais comme « OK, non, ça va, c'est normal, tu sais. » Mais bon.
Je suis pas défectueuse.
Tu peux faire des tresses.
Je peux faire des tresses.
Et tu peux lui dire que tu l'aimes.
Oui, oui. Oh. La petite rose de mon cours de ballet.
J'entends toute la petite rose.
On la salue.
On la salue. Et on va saluer les auditeurs auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. J'espère que c'était une émission qui vous a sensibilisé un peu plus à cette réalité-là, si vous ne l'étiez pas déjà. Et sinon, qui va vous aider à poursuivre vos réflexions. Je ne sais pas si vous aviez des suggestions de lecture en finissant, justement, pour...
De lecture?
Pour poursuivre la réflexion.
Et tu me lances ça à frette, là?
Oui, c'est ça. J'ai oublié de vous en parler. Mais je pense que tu avais mentionné la bande dessinée, justement, sur le polyamour.
Ask Me About Polyamory, oui, c'est vraiment cool parce que c'est très ludique, puis c'est séparé par thème aussi. Donc, c'est super cool, puis tu as des représentations de super larges, justement, de tout le spectre de la communauté, puis qui va vraiment faire des... ce qui va mettre en perspective donc plusieurs réalités que c'est, mais aussi de dire comme surtout l'important et qui aussi a une préface par Sophie Labelle.
Ouais.
Fait que ça c'est cool aussi, puis qui va parler elle-même de sa découverte du polyamour. Fait que c'est vraiment...
J'avais feuilleté un peu, là.
Oui.
Là, c'est incroyable.
Mais ça fait du bien.
Ouais,
c'est que ça fait du bien, puis je me rappelle à un moment donné où j'avais eu un conflit dans mon pollicule, du moins un accrochage, puis je suis allée lire la bande dessinée qui parlait de l'accrochage, puis je me suis dit, ah voilà, je suis pas tout seul, c'est normal, faut pas abandonner, c'est correct et c'est beau et on avance.
C'est Ask Me About Polyamory de Kimchi Cuddles.
Voilà, Kimchi Cuddles. Je l'avais eu la première fois, mais je me suis retenue pour rien.
T'as douté de toi-même.
Oui, voilà. Fallait pas.
Moi, peut-être, c'est un film qui est sorti en 2009, ça s'appelle Two Spirit. C'est... en fait, il y a un sous-titre un peu désolant, là, mais c'est autour de la mort d'un jeune garçon de la communauté Navajo aux États-Unis. Donc, c'est Two Spirits, Sexuality, Gender and the Murder of Fred Martinez. Donc, c'est une belle ouverture sur qu'est-ce qu'était la réalité Two Spirit dans les communautés des Premières Nations avant que la colonisation détruise ça. Donc, c'est peut-être une porte d'entrée.
Mmh.
Wow!
Puis, moi, pour finir sur une note peut-être un peu plus heureuse, des bandes dessinées aussi où on normalise des histoires d'amour qui ne sont pas des amours hétéros, Rat Queens.
Ah oui.
Puis, Lumberjanes, qui est une BD jeune adulte, en fait, tout public, je dirais. Là, c'est quand même.
Ouais, c'est vraiment dessiné aux enfants initialement.
Oui, c'est ça, initialement, mais en même temps, c'est très lu par des adultes aussi. Pas Rat Queens, non. Donc, qui normalise justement des histoires, puis des amitiés fortes, puis des relations amoureuses. Mm-hmm.
Je rajouterais The Wicked and the Divine aussi.
Qui,
je crois, a moins de scandales autour de sa parution que Rat Queens en ce moment.
Ouais.
Mais voilà, Wicked and the Divine, où il y a une représentation de personnages trans et de personnages de toute la communauté. Et qui est excessivement normalisé aussi.
Je regarde la pochette depuis comme 3 semaines.
Mais c'est vraiment très...
Mais la pochette, je voudrais la page couverture.
Mais c'est très beau. Moi, j'aime ça. Ça me fait du bien à l'adolescente en moi. C'est du soap. Puis c'est...
Ça en prend des fois aussi.
Ouais. Puis il y a un personnage, en fait, qui est trans. Puis je l'ai appris au troisième tome. Parce qu'à un moment donné, t'as un personnage qui drop l'information comme... Tu sais que moi, j'ai rien contre les trans. Puis j'étais comme, était trans? J'avais aucune idée. Puis ça m'a vraiment fait du bien de faire comme, c'est tellement chill.
Mais bon. Ouais, cool. Et Bitch Planet.
Oui.
Oui!
Oui. C'est comme, à chaque fois qu'on peut me dropper Bitch Planet, on va dire. Allez lire ça, c'est vraiment bon. Merci beaucoup, Sandrine, Maud, Elisabeth. C'est vraiment une belle émission.
Merci à toi, Mégane.
Je suis contente d'avoir fait ça avec vous.
Yay.
Pop Pride.